France Inter.
Je ne suis pas un chanteur, ni un écrivain, ni un acteur. Je suis un homme qui travaille. J'ai plein de petites casseroles sur le feu qui mijotent. Confiait Marc Lavoine aux Échos en 2015 et en effet, il touche à beaucoup de choses. Il commence d'abord par le théâtre et un petit boulot d'ouvreur à l'Olympia, puis imprime ensuite des tubes comme Elle a les yeux revolver et Le parking des anges dans toutes les oreilles françaises dès le milieu des années 80. On le voit au cinéma dans des films de Claude Chabrol, Marc Exposito ou Tony Gatliffe, mais aussi à la télévision et au théâtre. Avec Driss El Kessri, il fonde le journal Le Papotin, rédigé par des enfants autistes et coécrit Toi et moi, on s'appelle par nos prénoms. Son premier roman dans lequel il revient sur son enfance paraît en 2015 sous le titre L'homme qui ment, 2 ans après avoir sorti un album photo avec Cyril Putman intitulé Premier rendez-vous. Il écrit aussi pour les enfants, adultes jamais, et le nom de son dernier album studio, il a repris quelques-unes de ses chansons emblématiques en version symphonique et publié des inédits sur Revolver, version 2024. On écoutera d'ailleurs un extrait tout à l'heure. Son deuxième roman vient de sortir chez Fayard, Quand arrivent les chevaux, hommage à sa mère. Et si je continue de tout lister, nous arriverons à la fin de l'émission, donc j'arrête sans omettre l'habituel bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Marc Lavoine.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
C'était hier, je suis allé à Nîmes, j'ai revu un ami et on a bu ensemble.
De l'alcool?
Oui.
Vous êtes fidèle en amitié?
Ah, assez, oui, assez. Et on a bu, on a mangé aussi. Et on a beaucoup ri. Voilà.
Vous riez facilement?
Oui, assez facilement. Parce que je fréquente des gens qui sont drôles, qui sont mystérieux. Et donc, on rit beaucoup parce que j'ai du mal à parler du fond.
Ah oui?
Alors, je préfère rire et parler d'autre chose.
Comme en italien?
Exactement. J'aime bien parler d'autre chose.
Vous avez été viré à 14 ans du lycée pour insolence?
Oui, enfin insolence. Je me suis pas bien entendu avec le directeur. Voilà.
Oui, c'était pas un chic type.
Je sais pas, c'est moi peut-être, j'étais pas adéquate, j'étais pas calé.
Ensuite, vous avez intégré une école d'art rue Madame, section imprimerie, et j'ai lu que vous aviez appris des choses sur la typographie et les reliures à la feuille d'or.
Bah, la typographie, oui, c'est surtout le... J'ai appris que les caractères d'imprimerie à l'époque étaient conçus avec 3 éléments et que ces 3 éléments faisaient que le caractère pouvait tenir le coup, qu'il n'était pas trop mou, pas trop dur. Il y avait de l'antimoine, il y avait du zinc et il y avait du plomb, je crois.
Quels sont ces 3 éléments?
Ben, ces 3 éléments, c'est cela. Je crois que c'est le zinc, le plomb et l'antimoine qui les lie tous les deux. Ce qui fait que ça tient le coup. Et le caractère, c'est quelque chose d'important, je trouve. Ça porte bien son nom, le caractère.
Ça fixe.
Voilà. Et donc, je mettais ces plaques de caractère dans la machine et je faisais tourner la machine. Comme ça, qui tournait sur elle-même. J'allais raccorder derrière les... À l'arrière de la machine, il y avait des encriers qu'il fallait toujours raccorder pour que ce soit pas trop d'encre ni pas assez. Il fallait toujours calculer. Il fallait faire tourner cette putain de machine.
Comment vous êtes brisé le doigt?
Ah, je me suis mis le doigt dans la machine.
Délibérément?
Oui.
Pour faire autre chose?
Oui, pour partir. Pour partir faire du théâtre.
Vous étiez malheureux?
Non.
C'est quand même quelque chose de se mettre un doigt dans une machine délibérément.
Ben oui, mais je trouvais pas le moyen. J'avais un peu la lâcheté de dire à mes parents que je voulais partir. Donc je leur ai dit que je voulais faire du théâtre. Et donc, c'est une école dans laquelle mon frère était aussi. Il était dans la section dessin. La section des gens aux cheveux longs, avec les cartons à dessin, qui était beau à voir, d'ailleurs. Nous, on était en bleu de travail, donc on ne nous voyait pas, on était invisibles.
Mais après, vous êtes devenu un peu punk, et en parlant de cheveux, vous avez eu des coupes un peu farfelues.
Ben, je suis arrivé à l'Olympia avec une coupe un peu farfelue. Ils ont été gentils de me prendre, d'ailleurs, c'est-à-dire que ça avait des trous... Ils m'ont quand même pris comme coursier pendant un mois, et ensuite ça repoussait un peu, et ils m'ont fait entrer donc comme placeur à l'Olympia. J'ai pris la veste de Jean-Pierre Bacri, et j'ai pris son vestiaire, et j'ai commencé comme ça.
Vous étiez un peu punk aussi ?
Bon, vous savez, on est un peu tout. J'avais 16 ans.
À 16 ça dépend. Ans. On a des familles d'élection, on les choisit.
Mais là, j'ai rencontré un punk, en fait. Et donc, nous allions fumer sous les colonnes de l'église Saint-Sulpice. Alors, c'était très sympa, parce qu'on ratait beaucoup l'école, on prenait le métro. On buvait un sirop qui était un sirop bizarre, qui nous faisait avoir des hallucinations.
De l'absinthe.
Ouais, un genre de sirop, c'était le sirop de Dr Schmoll, je ne sais pas comment ça s'appelait. Et donc on avait des visions, et puis c'est vrai qu'on était un peu... on faisait peur aux gens de Penningen, les gens qui étaient en école d'art, dans les écoles privées, on leur faisait peur un peu dans la rue. On grognait, c'était assez amusant. Quoi. Bon, moi j'étais un punk de carnaval, hein. j'avais pas le kilt.
Alors tout à l'heure, ça a commencé par de l'alcool, de la boisson. Là, on parle de vision sous liqueur. Vous êtes un jouisseur, un bon vivant, ou est-ce qu'il y a une petite part d'autodestruction ?
Ah non, j'ai pas envie d'autodestruction, j'en ai pas envie.
Mais vous aimez l'ivresse ?
Voilà, je suis un ivrogne, c'est-à-dire que j'aime l'ivresse. Je suis pas un alcoolique, parce que j'ai peur de ça, j'ai peur de l'alcoolisme, parce que mon père l'était. Donc j'ai très peur de ce truc.
Vous pouvez vous arrêter ? C'est ça qui différencie un alcoolique de quelqu'un qui ne l'est pas.
Ah, moi, je bois en fonction des gens avec qui je suis. Donc, quand je suis avec la personne avec laquelle je suis en ce moment, j'aime bien l'ivresse, j'aime bien boire. Puis, dès que je suis seul, je ne bois plus. Je prends autre chose. Non, je déconne.
Pourquoi pas ? Alors, vous dites que vous avez toujours été anxieux, et pourtant, enfant, on vous appelait le père tranquille.
Oui, on m'appelait le père tranquille, mais bon...
Pourquoi ?
C'était l'image que je donnais, parce que je parlais pas... Parce que j'étais pas gênant, je gênais personne, je me dandinais comme ça, j'avais un mouvement perpétuel, ça s'appelait se berliner, ma mère appelait ça le berlinage, donc je me berlinais et puis je chantais sur place, les fenêtres ouvertes, la nuit, et la journée je faisais pas chier, j'étais vraiment tranquille, j'embêtais personne.
Alors, il paraît aussi qu'on vous appelait comme ça parce que vous aimiez vous allonger. Et
ah, oui.
Vous dites que vous avez commencé la photo parce que vous étiez à certains endroits où il fallait être debout.
Alors, attendez.
Dans les villes verticales où il faut être debout.
Oui, c'est horrible.
C'est la vie, en fait, qui est horrible.
Non, les villes verticales sont horribles.
Alors, c'est quoi une ville verticale ?
New York est une ville verticale, Paris est une ville verticale. Toutes les villes où, dès que vous êtes dehors, vous asseyez par terre, vous êtes suspecté d'être pas bien, d'être... quelqu'un qui ne suit pas les règles de la société. Donc ça, c'est une ville verticale.
Quelles sont les villes non verticales ?
En Afrique, tous les villages ne sont pas verticaux. Ils sont horizontaux. Et quand vous voulez voir l'Afrique, quand vous voulez regarder un paysage en Inde, vous êtes obligé un peu de vous allonger pour regarder. Parce que votre regard est obligé d'être comme ça, d'être latéral. Vous scrutez la hauteur et puis le sol et puis vous vous allongez parce que c'est la vie qui vous y invite. Tout est vivant. Ici, rien n'est vivant. Tout est mort. Les murs sont morts, les voitures sont mortes, les feux rouges sont morts. Les gens ne le sont pas, mais... Et même la mort, ici, on ne la regarde pas en face.
Non.
Voilà. Alors que là-bas, c'est tellement horizontal que pour aller voir sa femme, on pourrait prendre l'avion, ça mettrait une heure. Mais ils y vont à pied, et ça met deux jours, deux, trois jours, parce que le chemin est important, parce que boire le sang du buffle est important, parce que ne pas avoir faim, ne pas avoir... soif, pouvoir traverser à pied des contrées, puis monter la montagne, prendre un autobus, et puis passer trois jours à se souvenir de ce qui s'est passé, de pourquoi on a aimé cette femme, pourquoi on va la retrouver. Tout ça est important. Chaque lettre est importante. Un jour, un Maasai m'a demandé si, quand il téléphonait, s'il payait au nombre de mots ou au temps passé. J'ai réfléchi parce que je trouvais la question intéressante et je lui ai dit, c'est au temps passé. Je crois que c'est le temps passé. Hein, il dit, c'est pour ça que je paye cher, alors. Parce que quand je raconte mon histoire, je pourrais la raconter en anglais, ça durerait deux minutes. Seulement, je la raconte dans mon langage et...
Vous voulez pas essayer en anglais pour voir ce que ça ferait ?
Et je lui dis, tu veux pas essayer en anglais ? Il m'a dit non, parce que moi j'ai envie de lui dire que la vache que je lui ai achetée là, c'est la même que celle d'il y a 17 ans, et je lui raconte tout ce qui s'est passé depuis ces 17 ans jusqu'au moment où je vais lui montrer la nouvelle vache avec le petit tatouage sur le nez que je lui ai acheté. Et ça, c'est merveilleux parce que...
Vous avez acheté une vache à quelqu'un ? Vous avez bu du sang de buffle ?
Non, j'ai pas bu.
Parce, non, non. Parce que là, vous savez comment vous sonnez? Vous sonnez comme votre mère dans votre dernier livre.
Et ça sonne comment?
Eh ben, ça sonne comme un monologue qu'on pourrait prendre pour fou ou pour très poétique.
Un fou? Non, je suis pas fou.
Si, non. Non, mais dans le bon sens du terme, dans le sens créatif.
Parce la que folie, c'est la raison d'un seul. Donc,
Oui, la folie, c'est l'extrême lucidité, souvent.
Je sais pas, en tout cas, quelqu'un a dit que le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison.
Ben oui.
Ben oui.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Vous savez pourquoi j'aime beaucoup ces petits morceaux musicaux?
Non, vous pas parlez duquel, du générique?
Celui-ci, ou là, le générique de tout à l'heure.
C'est parce que Flavien Berger qui l'a composé.
C'est pas tellement, bien sûr, c'est pas tellement les notes, c'est l'atmosphère qu'ils ont.
Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme atmosphère?
J'en sais rien, c'est tranquille, mais c'est... Il y a un suspense à l'intérieur, il y a autant une tranquillité, comme si on pouvait se poser, et, comme voilà, un endroit sur lequel on se pose, qui est ni un endroit, ni un lieu, enfin, un état, et ça nous met vraiment dans une sorte de, ouais, de mouvement, c'est très agréable.
Ah bah écoutez, je ne sais pas comment exprimer. Contente de ça, et ce sera transmis à Flavien Berger qui a fait le générique. Est-ce que vous me permettez de parler de vous?
Bien sûr.
Alors Marc Lavoine, dans votre roman L'Homme qui ment, vous évoquiez un père employé des PTT porté sur la bouteille, ça vous l'avait dit tout à l'heure, ségétiste, communiste et infidèle. Et la mélancolie de votre mère, votre nouveau roman Quand arrivent les chevaux est un hommage à votre mère qui vous a inventé, dites-vous, et qui a réalisé vos rêves. Et vous dites que votre père était communiste à l'extérieur pour les autres et votre mère était communiste à la maison.
Non, il n'était pas communiste pour les autres, il était communiste parce qu'il avait envie de changer le monde. C'est une folie, mais bon, c'est un rêve qu'il a raté. Qu'il a raté son rêve, mais il a quand même réussi à me transmettre des valeurs et des principes qui sont toujours aujourd'hui ceux qui m'animent. Quant à ma mère, elle disait pas qu'elle était communiste, mais elle l'était par amour pour mon père. Elle était aussi croyante, bon, elle était perdue là-dedans un peu, peut-être. Mais, en tout cas, ce qu'elle réalisait était une réalité. Voilà, c'était tous les jours... Le travail qu'elle faisait, c'était donner à l'autre et être attentive, être dans la vérité.
Vous avez surtout grandi avec des femmes, vous les voyez travailler, s'occuper de la maison, s'affairer. Votre père rentrait, lui demandait un whisky. Et vous dites que votre mère aurait voulu une fille à votre place. Et vous dites qu'elle n'a pas tant acté que ça, puisque vous n'aimez pas tant que ça les hommes.
En tout cas, elle m'a élevé comme une fille.
C'est-à-dire?
C'est vrai que... Elle m'a pas coupé les cheveux, elle me regardait autrement. Elle me regardait avec un regard... j'adorais son regard, quoi. J'étais bien dedans. Et donc, mes grand-mères et ma tante m'ont élevé aussi. C'est-à-dire, c'était différent. Mes deux grand-mères étaient différentes. Une qui faisait du café, qui était affairée tout le temps. Elle faisait 1m50, elle était drôle. L'autre grand-mère était aveugle, donc c'était différent. C'était une approche différente de la vie. Et ma tante venait de temps en temps parce qu'elle revenait d'Algérie. Elle était mariée là-bas. Et elle faisait le couscous, elle faisait la semoule avec moi. Et donc moi j'étais tout le temps avec elle parce qu'il y avait tout le temps une place pour moi. Quand on faisait la vaisselle, il y avait une petite place pour moi pour essuyer les verres par exemple. Quand on faisait la cuisine, il y avait une petite place pour moi. Et quand elle parlait, je les écoutais et puis il y avait une petite place pour moi. Il y avait toujours une petite place pour moi et j'étais très bien à cette place-là, qui changeait un peu tout le temps. Et donc alors parfois j'allais voir mon grand-père qui lâchait des proutes, qui m'apprenait à bourrer sa pipe, qui m'apprenait des choses comme ça à la Jean Valjean. Bien sûr, j'aimais beaucoup aller avec mon grand-père, mais la sieste venait, j'allais avec ma grand-mère dans sa chambre et là c'était comme une fumée d'opium, c'était ses voiles, ses gros seins qui tombaient, c'était ses câlins, ses histoires qu'elle me racontait, puis la fenêtre ouverte avec la vie dehors qui continuait, c'était fascinant.
Vous dites souvent que vous n'avez jamais aimé autant quelqu'un que votre mère.
Oui.
N'est-ce pas handicapant?
Ah si, c'est handicapant, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, de temps en temps, vous plongez dans les yeux de quelqu'un et vous vous sentez vous. Alors ça m'est arrivé, hein, quand Catherine Ringer m'a pris la main, qu'elle m'a regardé, elle m'a regardé comme j'étais. Non pas comme celui que j'aurais pu être, ou comme celui qui faisait semblant d'être, ou comme celui que les autres voyaient. Elle m'a vu qui? Elle a vu qui j'étais. Et ça m'a vraiment frappé. C'était la première femme dans ce métier qui m'a regardé comme j'étais. Et ça a démarré d'ailleurs cette aventure qu'on a vécue ensemble et qu'on vit encore aujourd'hui, qui s'appelle, je pense, qui s'appelle l'amitié. qui n'est pas une amitié. On se dit pas, hein, on est amis. Non, non. J'ai jamais voulu être dans le premier cercle. J'ai jamais voulu être dans l'intimité. C'est pas le propos que nous avons. Mais on a créé quelque chose à partir de cette journée, du jour où elle m'a pris la main, où elle m'a regardé dans les yeux, où je l'ai regardé dans les yeux aussi. Chacun avec sa question, ou alors son intention. Et on a commencé cette histoire. Et puis, c'est une histoire merveilleuse, quoi. C'est vraiment... je suis en admiration devant elle. Elle est vraie. C'est une des personnes véritables que je connaisse. Voilà.
Quel est votre regard sur vous-même? Comment vous vous regardez?
J'ai pas de regard sur moi.
Vous regardez pas dans le miroir?
Non.
Comment ça?
Non, je me rase le matin, parce que je me rase tous les jours.
Mais dans le miroir?
Oui, je me rase dans le miroir. Une fois, je regarde où je me rase. Vous voyez, quand on se rase, on regarde là où on va. Hein. Puis de toute façon, quand j'ai pas mes lunettes, là, je vois plus.
Et c'est mieux?
Je vous vois tout flou.
C'est mieux?
C'est pas mal.
Ouais,
c'est pas mal.
Ah oui, je comprends.
C'est pas mal. Mais se regarder, c'est inutile. Parce que bon, de toute façon, moi, je suis tout le temps... Si je commence à me regarder, c'est étouffant. Parce qu'il y a des journaux, ça fait 40 ans qu'il y a des télévisions, des films, des trucs. Alors, quand je regarde un travail, par exemple, quand je fais un film... C'est bien de regarder l'image, parce que vous savez où vous vous situez, vous savez, si vous dites la phrase de dos, vous pouvez la dire de dos, là, et là, vous pouvez vous retourner à ce moment-là. Donc vous pouvez rythmer votre travail, comme de la musique. En musique, on n'a pas besoin de se regarder, oui, on écoute, et puis là, au cinéma, on doit se regarder, donc... Les prises de photographie, c'est pénible aussi. Alors bon, il faut choisir la personne qui va savoir vous captiver, et vous faire oublier qu'on fait des photos.
Le flou, ça revient dans ce que vous dites depuis le début, le lâcher prise, le flou, les dates aussi, il paraît...
Pas le lâcher prise, j'aime pas le lâcher prise.
Ah bon ?
L'abandon.
L'abandon, c'est se lâcher, l'abandon.
Non, mais le lâcher prise, c'est lâcher quelque chose.
Lâcher soi, se lâcher soi.
Moi, j'aime bien l'abandon, c'est... Parce que lâcher prise, on ne sait pas ce que c'est. L'abandon, on s'abandonne à quelqu'un, vous voyez ? J'aime beaucoup m'abandonner à quelqu'un.
C'est forcément à quelqu'un qu'on s'abandonne ?
Je crois, oui, je pense. Oui. Quand vous êtes avec votre chat, par exemple, ouais. Vous avez un petit chat, un chat noir, par exemple, un chat merveilleux qui vous regarde avec ses yeux verts, comme ça, un peu jaune, et puis vous voyez, ce chat n'est pas tout à fait domestique. Il est un peu sauvage, quand même. Et de temps en temps, il s'abandonne à vous. Non pas parce qu'il vous aime, bien sûr qu'il vous aime, mais parce qu'il en a besoin. Il a besoin de s'abandonner. Et moi, je suis un peu comme ça. Ouais, je suis un peu comme ça.
Ça me refait penser...
Je vais mettre mes lunettes, parce que comme
à
ça,
la mer. Ah, ouais, là, vous me voyez à nouveau, je suis désolée.
Oui, mais c'est bien. C'est
terrible,
bien.
C'est le réel qui réapparaît.
Ah oui, mais il est bien.
Il est bien, le réel, là, ça va.
Le réel est merveilleux. Il ne faut surtout pas fuir le réel, parce que le réel est comme un rêve. Il est merveilleux.
Ah
il,
bon
faut, il faut y croire. Le rêve est une chose à laquelle il faut croire. Plus on rêve loin, plus on vit loin. Et dans le réel, il faut trouver le rêve, parce que le réel est merveilleux. Le réel est merveilleux. Oui.
Est-ce que vous faites toujours le même cauchemar avec un fil qui sort de votre palais et qui vous tirez dessus et ça n'en finit pas? Puisqu'on parle de rêve.
C'est dingue que vous ayez entendu parler de ce cauchemar, qui est un cauchemar qui revenait mais vraiment tout le temps. Et là, il s'est arrêté. Mais c'est dingue.
Ah, récemment?
Il y a 9 mois, il s'est arrêté.
Il y a 9 mois?
Ouais,
alors qu'est-ce que vous allez mettre au monde?
Ben, je sais pas, mais c'était horrible.
Là, je le dis pour les auditeurs, vous tirez le fil de votre bouche.
Je tirais.
Un tour de magie très anxiogène.
Ça faisait une pelote. Et je tirais, j'essaie de le casser. Tac. Et ça continuait. Et c'était affreux parce que ça durait longtemps et ça me réveillait. Hein. J'étais angoissé par ce rêve. Je ne sais pas ce que ça veut dire en plus. Parce qu'il paraît que les rêves s'expliquent. Moi, je préfère pas les expliquer.
Peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle meurt. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus, c'est comme ça. Peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu.
Là, on entend un de vos tubes, Marc Lavoine, mais repris dans une version sortie en 2024 sur l'album Revolver, c'est Les Yeux Revolver, avec un orchestre symphonique. Et en fait, ça vient de votre mère, puisqu'elle oui. vous disait si tu avais des revolvers à la place des yeux, je serais déjà morte.
Oui, c'est vrai, elle me disait ça. Ça me faisait
pourquoi
peur.
Vous la fusilliez du regard.
Oui, de temps en temps, je la fusillais du regard. Et bon, ça me tout de suite, ça m'angoissait,
bah,
ça
oui.
faisait de la peine surtout. Et donc, je m'excusais. Je lui demandais pardon, et elle me souriait, et puis ça reprenait. Mais elle avait peur de mon regard de temps en temps. Je sais pas pourquoi je la regardais comme ça. J'étais pas sévère avec elle, hein. J'étais tout le temps collé à elle, donc je me souviens, j'étais sous le bureau à son travail, je m'étais sous le bureau, puis je regardais ses pieds quand elle tapait à la machine.
Parce qu'elle était secrétaire.
Oui, elle tapait si bien. Et j'aimais bien le ding, j'aimais beaucoup quand elle envoyait des trucs. Elle était très élégante. Vraiment élégante, elle était très élégante. Et donc, je sais pas pourquoi je la regardais méchamment de temps en temps, c'était horrible. Mais bon, quand on est enfant, on sait pas toujours ce qu'on fait.
Vous aviez prévu de publier Quand arrivent les chevaux il y a 7 ou 8 ans, mais,
oui.
mais la douleur était trop forte, la douleur de sa disparition.
Ah non, je sais pas pourquoi je le sortais pas, c'est comme un refus d'obstacle, hein, c'est... Je l'avais laissé comme ça échouer.
C'est pas ça la pelote qui sort de votre bouche ?
Je sais pas, peut-être.
Que je suis évidemment docteur et psychanalyste depuis 5 minutes.
Peut-être, c'est ça, je sais pas. En tout cas, c'est un ensemble de choses, je pense, qui n'allaient pas. Mais je sais pas pourquoi je touchais pas. Alors, il y avait de la peinture dessus, il y avait du café, il y avait des tas de choses. D'ailleurs,
le manuscrit ?
Oui, je l'ai filé à quelqu'un de chez Fayard qui l'a gardé. Parce qu'il a travaillé sur ce morceau d'écriture. Il est rentré dedans, lui, comme... je sais pas comment il a fait pour s'en sortir. Il est rentré dedans. Parce que c'est écrit sans point, sans virgule. C'est écrit d'un trait, comme ça. Avec des formes de caractères différentes. Parce que parfois, je me perds dans les machines. Ça fait un caractère différent. Donc, il y a des... Voilà, donc, avec les dialogues et tout ça, en plus. Donc, c'était un peu le... Il fallait trouver comment j'avais structuré les choses. Et c'est vrai que c'était structuré entre ma boîte crânienne, donc mon atelier de travail, le café de la Croix-Rouge et la chambre 36. Et
où votre mère était malade.
Voilà, c'est la date de naissance de ma mère, 1936. Et le café de la Croix-Rouge, qui est un café qui porte bien son nom, parce que on trouvait que la Croix-Rouge, ça marchait bien. Et puis, c'est un café que j'aime bien, donc c'est vraiment bien tombé, ça s'est bien trouvé. Et à travers ces trois endroits, je me promène, quoi. Et je rencontre les gens qui font partie de ma vie et qui me disent que ma mère, que ça se tient, ce qu'elle raconte, quoi.
Parce que justement, tout à l'heure, on parlait de rêve et j'ai prononcé le mot folie, mais dans le bon sens du terme, dans le sens d'imaginaire, dans le sens d'univers. Et votre mère, sur son lit de maladie, vous raconte au narrateur qui s'appelle Marcel, puisque vous brouillez un peu les pistes, parce qu'il y a quand même des gens qui existent dans le livre qui sont nommés comme Franck Maubert, Patrick Suirc, le photographe. Il y a des gens qui existent.
Ah, ils existent tous.
Tous.
Même Schweppes.
Schweppes, qui est un docteur qu'elle a renommé.
Oui, lui il existe. Hein. Il existe. C'est un homme qui parlait avec ma mère. Et c'est marrant, c'est que je rentrais dans la cuisine, j'entendais pas ce qu'il racontait. Ils buvaient leur café, ils souriaient, ils se regardaient, ils parlaient ensemble, mais j'ai jamais entendu ce qu'ils se disaient. Et je voulais surtout pas entendre ce qu'ils disaient d'ailleurs.
Vous aimez le mystère, parce que c'est aussi, vous avez débuté par là, vous traîniez avec des gens drôles et mystérieux. Vous aimez ça, le mystère?
Oui, j'aime bien. Par exemple, Franck Maubert est un garçon mystérieux, d'ailleurs je l'appelle souvent Mystère. On a fait des émissions sur France Inter avec lui d'ailleurs.
C'est celui qui a publié un texte sur Ronsard récemment.
Lui, il a fait aussi beaucoup de choses sur Bacon, il a fait un roman merveilleux qui s'appelle L'eau qui passe, L'eau qui passe. Et c'est un type mystérieux, mais il a une Jaguar à propulsion, il a des petites caractéristiques, et puis surtout il est très intelligent, il aime beaucoup l'art moderne, donc je vais parfois traverser le Louvre avec lui, mais il m'explique des tableaux que j'aime, on fait le grand tour ensemble, quoi. Et voilà, Francis Jean était il est mort malheureusement, un médecin, le frère de Philippe Jean, qui était un ami que j'ai connu quand j'avais 16 ans, et donc on est restés très amis, il a opéré ma mère d'ailleurs plusieurs fois, et... C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui étudiait la théologie, qui était un garçon qui jouait Litz, c'était un garçon incroyable. Donc tous les gens qui sont dans ce roman existent, oui.
Là, vous avez parlé du Louvre, et c'est amusant, puisque dans votre parcours, il y a souvent des allusions au cubisme. D'abord dans ce livre, puisque votre mère dit qu'elle est cubiste, surréaliste, et va raconter les choses dans le désordre. Et dans votre enfance, puisque vous étiez un enfant en surpoids complexé, et que vous disiez de vous que vous compreniez le cubisme, puisque vous étiez avec des morceaux à l'envers à l'intérieur.
Oui. Oui, le surréalisme a ce pouvoir de vous faire vivre, de vous faire respirer. La poésie, d'ailleurs, c'est par là que ça a commencé. Ça a ce pouvoir de vous reconstituer, de vous extraire du monde réel pour vous emmener dans un monde où vous pouvez respirer. Donc le surréalisme, ça a été le choix pour écrire ce bouquin. Je trouve que c'était la meilleure façon d'appréhender la mort et de vivre la mort de l'autre ou sa propre mort, de la vivre dans l'affaire surréaliste, quoi.
Puisque c'est le roman d'une jument, le sous-titre « Récit basé sur une histoire vraie ».
Hier dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur.
Marc Lavoine.
Moi, ça me fait sourire, vous voyez.
Bah
ça,
oui.
C'est merveilleux ce que l'écriture surréalise, parce que c'est dingue.
Bah oui, c'est ça la folie dont je parlais.
C'est dingue d'écrire des choses comme ça. Et tous les textes que j'ai pu lire sur le cheval réunissent cette histoire, c'est-à-dire que c'est l'histoire de l'homme, l'histoire de la mort et l'histoire de la vie. C'est ce que dit d'ailleurs Jean Rochefort à la fin du livre.
Oui, dans 30 millions d'amis. J'ai failli passer l'archive, mais je me suis dit que vous l'attendiez trop.
Oh non, j'attendais rien.
Ah oui.
Mais c'est pas grave.
C'est bien de rien attendre. Votre mère vous fait remarquer un moment dans le livre. Alors je tiens à préciser que là, on entend vous oublier votre cheval de Trenet, puisque ça fait partie de toutes les œuvres musicales et littéraires que vous citez, qu'elle vous a offertes et qui traitent du cheval. Elle dit elle-même qu'elle a 12 ans et qu'elle est une jument, en fait. Et elle vous fait remarquer, Marc Lavoine, que tous ceux que vous aimez se sont flingués.
Oui.
Je cite. Chatterton, Gary, Deleuze, Hemingway, Mishima, Nerval, Virginia Woolf, Sveg, Debord. Et là, j'aimerais qu'on parle
De qui ?
Alors, soit d'animaux, soit de souffrance. On commence par quoi ?
Ah ben, c'est par ce que vous voulez.
Eh ben, la douleur d'abord, parce que vous... Il y a une douleur immense aussi qui émane de ce livre. Malgré la poésie à la Boris Vian où tout peut arriver, il y a une douleur tragique.
Vous êtes quand même... Soyez prudente quand même, parce que à la Boris Vian, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais c'est plutôt bien pris ou mal pris ?
Ah, c'est bien pris, mais c'est... je ne voudrais pas devenir prétentieux.
Non, mais je veux dire, quand quelqu'un peut se transformer en enfant de 12 ans et en jument, là, tout à l'heure, vous parliez de surréalisme, il y a de la poésie, il y a de l'humour, la distance dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, il faut de l'humour.
Mais la souffrance, vous ne la cachez pas non plus.
Non, mais non, elle existe, elle est là, donc à quoi ça servirait de dire « Non, j'ai pas mal, ma mère va très bien, ne vous inquiétez pas. » Non, ma mère va pas bien, ma mère est folle. Je crois qu'elle est folle en tout cas, mais elle n'est pas folle. Elle me dit la vérité, elle me dit une chose incroyable, que j'ai du mal à croire, mais qu'au fond je savais que ça allait me rattraper. Évidemment, je sentais que ça allait me rattraper. Elle me dit des choses d'une intelligence rare, parce qu'elle était intelligente.
Et elle vous appelle de plein de noms d'animaux. J'ai jamais vu autant de surnoms d'amour d'animaux. Beaumerle, peau de toutou.
Beaumerle, c'est parce que Beaumerle, non, Beaumerle, c'est rajouté. Hein. Ça vous tombez pile sur celui qui est Marie Lafitte qui me disait Beaumerle. Voilà, parce que parfois je parle un peu comme ça, comme un Beaumerle. Alors elle me dit arrêtez Beaumerle. Mais sinon, il y a des surnoms qu'elle me donnait, et puis ceux que j'ai rajoutés, évidemment.
Il paraît que donc vous avez hérité de l'enthousiasme de votre père et de la mélancolie de votre mère, et que écouter des chansons tristes vous remonte le moral.
Oui, ça, moi. Alors, ça fait pleurer, évidemment. Si vous me passez.
Quand vous ferez le bonheur, par exemple.
Par exemple, ou quand reviendras-tu, bon, c'est très émouvant. Il y a des phrases qui vous transpercent une vie entière. Hein. C'est merveilleux.
Madame, où courez-vous dans le silence du tohu-bohu de la rue? Madame, tu vas retrouver ton amant pendant que ton mari travaille. Madame, le bonheur, ça vaut pas trois mailles. Madame,
Léo Ferré, le bonheur. Le bonheur, c'est du chagrin qui se repose. Ça, c'est une phrase qui vous a marqué, Marc Lavoine.
Le bonheur, ça n'est pas grand-chose, c'est du chagrin qui se repose. Il ne faut pas le réveiller. Le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Écrire ça, c'est... Oui, ça dure une vie. Et il a écrit un jour aussi « Partir en cocotte en papier ». Oui, ça c'est merveilleux de partir en cocotte en papier. C'est-à-dire de proposer à quelqu'un de partir en cocotte en papier, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique.
Et plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour. Vous.
Ma plus belle histoire d'amour de Barbara, que votre mère écoutait beaucoup, Marc Lavoine. C'est votre second choix musical.
Oui, c'est beau, c'est magnifique. Elle écrit comme on parle, elle écrit comme on pense, elle écrit... Les rimes viennent seules, elles sont libres. On sent aucune...
Donc c'est de la poésie encore, vous parlez de rimes.
Oui, on sent aucune volonté, aucune posture dans la rime. La rime est riche, elle est simple. Elle est riche parce qu'elle est simple. Elle est simple parce qu'elle vous touche. Elle vous touche parce qu'elle est vraie. Elle est vraie parce que sa voix aussi est une poésie. Sa manière de composer, de poser ses doigts sur le piano, de se présenter en scène comme si elle se présentait seule dans son salon, de se jeter sur son piano, d'être folle, d'être vraie, d'être nous, d'être les milliers de gens qui venaient la voir, tous réunis avec elle. Et c'était merveilleux de voir des gens libres, des gens homosexuels, de différentes classes sociales qui étaient là, qui écoutaient ces mots et qui s'attrapaient ce visage, qui est une sorte de sculpture incroyable qu'on n'avait jamais vue avant et qu'on verra jamais plus, qui reste dans les cerveaux, dans les esprits, et qui renaît à chaque fois qu'elle touche quelqu'un dans la rue, une petite fille de 8 ans, une petite fille de 10 ans, qui dit « Ah, c'est joli !» Et puis voilà, c'est sympa, c'est magnifique.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez.
L'eau vive de Guy Béard, c'est ce qui résonnait chez vous, enfant, Marc Lavoine, votre père la jouait ?
Oui, il la jouait à la guitare. Moi, je ne me souviens pas qu'il la jouait.
Ah bon ?
Mais il la jouait beaucoup.
Je le sais grâce à vous, alors comment vous...
Il la jouait quand j'étais enfant, quand j'étais petit. Et ensuite, il la jouait dans le salon. Quand on... Mais à le moment où il a commencé à la jouer, je ne m'en souviens pas, je m'endormais. Mais surtout, ce dont je me souviens, c'est Pierret le Loup. Gérard Philippe m'a beaucoup marqué, parce que j'étais petit, j'étais enfant, j'écoutais donc Prokofiev, et j'avais peur de ce disque, et ce disque m'attirait. Tous les jours, je voulais l'écouter, tous les soirs, je me replongeais. J'avais peur, j'étais terrifié, donc de temps en temps, mon frère était à côté de moi pour me soutenir, parce que c'était quand même quelque chose de... Il fallait affronter Pierret le Loup, mais c'était merveilleux.
Je vous ai demandé de faire découvrir une autre chose que vous trouvez merveilleuse aux auditeurs. Vous avez choisi l'exposition au Palais du Luxembourg de Tarsila do Amaral.
Oui, c'est une artiste que je ne connaissais pas, qui a éclos en France. Enfin, je ne sais pas si on dit qu'elle a éclos. Enfin, elle a commencé en France avec des artistes, avec Duchamp, avec ces gens-là que j'aime beaucoup. Donc, c'est l'art moderne, c'est vraiment une période de l'art que j'aime énormément. Et le surréalisme, le dadaïsme. Donc elle a commencé avec eux, puis ensuite elle est repartie dans son pays, et elle a rencontré la culture communiste. Alors elle a dessiné des choses incroyables. Il faut vraiment aller voir cette exposition qui est merveilleuse, parce que c'est vous rentrez dans un endroit et vous caressez les murs, vous approchez des œuvres, vraiment de façon silencieuse, et vous entendez les soupirs des autres à côté qui respirent, qui aiment ce qu'ils sont en train de regarder. Ils ne savent pas quoi dire. Ils aiment, et c'est merveilleux. C'est vraiment une très très belle exposition.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça.
C'est grâce à ce disque que vous vous êtes dit, Marc Lavoine, que vous vouliez être chanteur. On entend Melody Nelson de Gainsbourg, qui était dans la même maison de disques que vous, oui. Et j'aimerais que vous racontiez deux choses, si vous le voulez bien. La première, c'est la fille qui fume sur cette chanson que vous découvrez. Et la seconde, c'est... Vous n'avez pas osé lui parler dans la maison de disques, mais vous l'avez rencontrée plus tard grâce à Bambou.
Oui. Alors, j'étais dans un jardin de mes amis les Gros Valets, qui étaient communistes. Ils buvaient du whisky.
Le whisky et le communisme, ça revient tout le temps.
Ouais, c'est eux qui ont envahi ma maison de whisky, d'une certaine façon. Parce que mes parents buvaient de l'eau de vie, ils buvaient des choses de pauvres. Et donc, au rez-de-chaussée de la maison, derrière, il y avait des fenêtres qui étaient en... des petites fenêtres, comme ça. Et moi, j'étais pas très grand, j'avais peut-être 12 ans. Et j'étais là, et je voyais un photographe qui photographiait une jeune femme nue. Il lui filait des gitanes, et ils écoutaient ce disque, voilà. Et donc, j'étais ébloui par cette image. C'était vraiment beau de voir ce jeune garçon, Marc, il s'appelait Marc... Très beau, en train de photographier cette fille avec des parapluies, etc., qui était donc un peu nue. Et c'était très joli. C'était vraiment, ils étaient très beaux tous les deux. Et je ne sais même pas s'ils ont vu que j'étais là d'ailleurs. Et puis j'ai rencontré Gainsbourg donc dans la maison de disques. J'ai signé en 82 avec Caillard, le producteur et l'éditeur de Georges Brassens. Et dans cette maison, il y avait vraiment tout le monde. Il y avait Léo Ferré, il y avait Barbara, il y avait donc Johnny Hallyday bien sûr, Eddie Mitchell, enfin. Et Gainsbourg, qui était incroyable. Donc je l'ai vu arriver un jour. L'ascenseur s'est ouvert devant mes yeux et il est sorti avec Jane Birkin. Il avait un verre avec lui, un verre de 102. Voilà, c'est la première fois que je le voyais, j'étais très impressionné. Ensuite, je l'ai recroisé plusieurs fois dans des endroits, dans des boîtes de nuit ou bien à Cannes. Et puis, je suis allé voir son spectacle au Casino de Paris, donc les deux fois où il est passé. Il tombait des escaliers. Et à la fin, donc, ma femme était enceinte. Elle attendait, mon premier enfant. Et Bambou aussi était enceinte, elle attendait Lulu. Elle m'a vu, donc parce que je la croisais souvent. Et je l'aimais beaucoup. Non pas qu'on se parlait, mais on se comprenait, on se regardait, et elle savait que j'étais toujours assez gentil. Et elle était réceptive à ma gentillesse. Et donc, elle me dit, viens. Et elle ouvre la porte, elle me jette dans la loge, quoi. Voilà, et là, j'ai passé donc une demi-heure avec lui.
Vous vous souvenez de l'échange ?
Ah oui, bien sûr. Évidemment, oui. Ben, je lui ai parlé de lui. Lui m'a parlé des autres. Il m'a parlé des photographies qui étaient sur le mur, de tous les gens qu'il avait connus, de Jane, de Bardot, de Neuve, etc. Il m'a parlé aussi des musiciens, il m'a parlé des... Moi, je lui parlais du tracklist, je lui parlais de la liste des chansons, je lui parlais de sa voix, je lui parlais de son écriture, il me parlait tout le temps d'autres choses. Et puis, il a pris un paquet de cigarettes, il a appelé le photographe Van Pook, et il m'a tendu les cigarettes, donc j'ai essayé de tirer une... J'étais assis, hein, on s'est assis. J'étais assis en face de lui et il m'a donné une cigarette. J'étais comme ça, c'est ça, il était là. Et j'arrivais pas à la tirer du paquet, donc, parce qu'il la retenait, lui. Il disait, vas-y, shoot, shoot. Ensuite, il m'a mis le briquet sous la cigarette et il tournait le briquet comme ça autour de la cigarette. Il disait, putain, shoot, nom de Dieu. Et donc, Van Pook shootait. Il a allumé la cigarette, on a fumé notre cigarette, on a parlé. Puis à la fin de la cigarette, il m'a fait, je suis un peu fatigué. Et je lui ai dit, bien sûr. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça.
Dites donc, j'y pense, vous allez rester enfermé toute la journée avec vos bouquins ?
Eh oui, j'ai passé les examens en septembre et je suis pas mal en retard, alors...
Je comprends, mais c'est férié aujourd'hui. Ma mère à moi m'a dit qu'il n'y a pas de rendement les jours de fête.
C'est pas vrai, ça. Bon, enfin, j'ai rien fait de bon ce matin.
Eh bien sûr, c'est ma faute. Allez, venez, je vous offre un verre.
Non.
Évidemment, si on arrive à trouver un bistrot
non,
dans ce cimetière.
Non,
mais si,
non,
monsieur, en rose, vous n'allez pas me dire que vous
ne
buvez pas,
hein.
Allez, vous faites pas prier, personne ne vous retient.
Les clés !
C'est moi qui les ai, elles étaient accrochées derrière la porte. T'en fais pas comme ça, allez, avance.
Marc Lavoine, je voulais vous passer un extrait de L'Enfer de Chabrol, puisque c'est votre père de cinéma.
Et là, c'est L'Enfer de Clouzot ? Ou L'Enfer
non,
de Chabrol ?
Pas du tout. Là, c'est Jean-Louis Trintignant dans Le Fanfaron de Dino Rizzi.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et c'est un film sorti en 62, et c'est ce film qui vous a décidé à devenir acteur.
C'est un film que j'ai pas supporté, parce que j'ai pas accepté la mort de Trintignant. D'ailleurs, j'ai pas tellement accepté sa mort non plus. Mais là, à l'époque, j'étais enfant, enfin j'étais jeune... Et la fin de ce film est terrifiante, parce que dans la voiture, il y a moi et mon père, d'une certaine façon. Sauf que dans la vie, mon père, c'est lui qui est mort, et moi, je suis toujours vivant. Et là, dans le film, c'est... Et d'ailleurs, la tête de Gassman est... Il est désemparé, son visage est mort, il est creusé d'une douleur incroyable quand il apprend que l'autre est mort, parce que c'est magnifique. Trintignant est magnifique. Voilà, il a toujours été magnifique. Alors... Voilà, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui, d'être ami avec lui, et je l'ai vu très, très peu de temps avant sa mort, et on a toujours beaucoup ri. J'arrivais chez lui par exemple, et il me disait, j'amenais des bouteilles de vin, parce qu'il aimait bien le vin, moi aussi j'aime bien le vin, donc je lui amenais des bouteilles de vin, donc je lui amenais deux bouteilles de bon vin, il me fait en bois grand aujourd'hui. Moi j'ai dit, tu vois de mieux en mieux alors. Non mais j'ai repéré les étiquettes, il me dit, tu sais, si un chameau peut travailler 5 jours sans boire... Un homme peut boire 5 jours sans travailler. À chaque fois, il avait toujours cette phrase drôle, et puis il lisait des poésies. Il me lisait des poésies toute la journée, c'était magnifique.
Merci beaucoup Marc Lavoine.
Et merci à vous, c'était très agréable.
Bah, chouette.
C'est chouette.
Oui, alors votre actualité quand même, évidemment votre roman Quand arrivent les chevaux est paru chez Fayard. Et à signaler aussi le film Les chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger, vous avez beaucoup marqué, adapté du conte d'Andersen, et vous avez fait avec votre fidèle compère Fabrice Aboulker la comédie musicale Les souliers rouges, qui en 2020 est toujours en tournée.
Je peux vous dire que c'est très réussi. Franchement, je suis allé la voir là il y a 4 jours, et ça part en Chine d'ailleurs, et c'est très réussi, je suis très heureux.
Et bon. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini. Ah oui, c'est vrai que je suis assez sacrément drôle. Par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Pascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Adèle Caglard.